Le journal était présenté par Julien Lagache, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Un secret des sources particulier ce matin, nous allons parler grand reportage avec trois grands reporters, dont un ancien président de Radio France. Grand reporter, deux termes qui font rêver, tout journaliste normalement constitué, président aussi, mais grand reporter, c'est un titre qui claque, qui signifie quelque chose, un statut important dans la profession. Et lorsqu'on devient grand reporter, eh bien on se dit qu'on a beaucoup de chance. On est payé pour parcourir le monde, voir de nos propres yeux, parcourir un bout de l'humanité, comme vous le dites, Jean-Luc Hesse, dans votre livre. On peut tomber amoureux en reportage, souffrir aussi, se faire peur, faire des rencontres extraordinaires. On rencontre, on témoigne et on se dit qu'on sert à quelque chose. Les coulisses des grands reportages, on en parle ce matin dans Le Secret des Sources avec nos invités. Jean-Luc Hesse, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre, Voyage, aux éditions du Cherche Midi, souvenirs de reportage. Jean-Luc Hesse, ancien PDG de Radio France, directeur de France Inter et ancien correspondant à Washington. Florence Lozac, grand reporter à ITV Canal+, bonjour.
Bonjour.
On a pu voir cette semaine un document remarqué sur les coulisses des services secrets, dans lequel vous nous révélez que plusieurs attentats ont été déjoués depuis janvier 6, je crois. Et Florence Lozac également, prix Bayeux 2010, des correspondants de guerre. Philippe Frandet, grand reporter à France Inter. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Jeune et expérimenté grand reporter, vous avez déjà parcouru le monde entier, ou presque, notre regard extérieur aujourd'hui dans Le Secret des Sources. Jean-Marie Charon est avec nous, sociologue, spécialiste des médias. Bonjour.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes cette semaine Jean-Michel Coqui. Le clin d'œil de la semaine en fin d'émission, le rendez-vous incontournable sera signé Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le Secret des Sources.
Bonsoir, ça s'appelle donc Synergie, un drôle de titre. J'ai donc pris la peine de vérifier dans le Petit Larousse ce que ça voulait dire, histoire de ne pas me sentir gêné dans les dîners en ville. Synergie donc du grec suné, qui signifie avec, et de ergon, qui veut dire travail, travailler avec. Vous avez compris, association de plusieurs organes pour l'accomplissement d'une fonction. Ça n'a rien de dégoûtant, puisqu'en l'occurrence, nous parlons de synergie entre les programmes de France Inter et l'information.
Il est 13h, et c'est Jean-Luc Hesse pour le journal.
Bonjour. Saddam Hussein tente de retrouver les bonnes grâces du monde arabe, il fait la paix avec l'Iran et annonce qu'il se retire des territoires chèrement conquis pendant sa guerre contre l'Ayatollah. Le roi Hussein de Jordanie à Washington, des explications difficiles avec George Bush.
Le secret des sources.
Le générique de Synergie sur France Inter tous les soirs de 18h à 19h, émission emblématique que vous avez présentée pendant 9 ans, Jean-Luc Hesse, en même temps que le journal de 13h, vous avez eu beaucoup de boulot là à l'époque.
Oui, mais plus on travaille, mieux on travaille. Enfin, c'était ma théorie de l'époque, hein. J'ai changé d'avis. Mais...
Alors, vous avez interviewé beaucoup de stars lors de Synergie pour cette émission. Vous le confessez dans votre livre, vous aimez les stars, vous aimez les interviewer.
Oui, j'ai un petit côté midinette. Enfin, j'aime bien être épaté par les gens. Donc, moi, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie à part être journaliste, que déjà pas mal. Mais enfin, bon, voilà, j'ai pas créé de film, j'ai pas créé de statut, j'ai pas créé de pièces de théâtre. Donc, je suis toujours épaté par les gens qui ont ce talent qui me manque sûrement, quoi. Mais je travaille dur pour essayer de récupérer. Mais Michel-Ange, c'est Michel-Ange. Et puis, moi, je suis que moi, donc j'aime beaucoup interviewer les gens, j'aime beaucoup les rencontrer. Il y a quelque chose de très beau chez les gens, moi j'aime les gens, pas seulement les gens d'ailleurs, mais j'aime la plupart des gens, j'ai le droit à mes antipathies comme tout le monde, et eux aussi ils me le rendent bien. mais je suis toujours sidéré par le talent ou par la personnalité. Enfin, je dois être un peu curieux comme nous tous ici, sinon on ferait autre chose de notre vie.
Alors votre livre Voyage au singulier, Jean-Luc Hesse, nous amène de Washington à Haïti, en passant au Salvador, en passant par Paris, par Le Mans, Saint-Paul-de-Vence, ou même Saint-Denis avec Jerry Lewis, vous nous en direz un mot si vous voulez. Est-ce que vos souvenirs les plus marquants sont forcément ceux que vous avez vécu à l'autre bout du monde?
Non. Je dis dans ce livre que quand j'ai démarré reporter, c'était dans un journal local au Mans, et que sortir des limites de la Sarthe, c'était vraiment du grand reportage, quoi. C'est-à-dire, ça nous arrivait deux fois par an. Donc, c'est à nous de mettre la barrière, la distance où on veut. Mais moi, j'ai rencontré des gens, j'en rencontre encore tous les jours, qui habitent à un kilomètre de chez moi, et puis ils m'intéressent. Mais alors, c'est vrai que mon côté midinette, Clint Eastwood, c'est, quand j'étais petit, j'ai regardé les posters de Clint Eastwood, je me disais, il est drôlement bien, ce gars-là, il doit être très grand. Effectivement, il est très grand. Et ça m'intéresse. Enfin, les gens qui créent quelque chose m'intéressent. Mais encore une fois, c'est valable pour tous les gens qui sont autour de la table, y compris Frédéric Barret, parce qu'il faut quand même qu'on le dise, on a travaillé ensemble.
Vous êtes sûr?
Journal de 13h. J'espère que ça va pas vous porter tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a partagé aussi, beaucoup de ce stress et de cette excitation de l'information. Je voulais dire aussi une petite chose. C'est que je connais plein de gens à Radio France et que j'ai l'impression qu'en 25 ans, ils m'ont toujours vu assis derrière un bureau comme directeur ou comme PDG. Et donc, ce livre avait aussi cette petite envie-là de leur dire, les gars, moi aussi, j'ai fait le métier de reporter, de grand reporter, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est ça qui a fait ce que je suis. C'est pas d'être directeur ou d'être PDG qui a fait ce que je suis, c'est ce que j'ai vu, ou ce que j'ai compris, ou ce que j'ai ressenti, ce que j'ai rencontré qui a fait de moi l'excellent homme que je suis. Je peux dire.
Florence Lezac, Philippe Randé, c'est vrai que lorsqu'on dit reportage, grand reportage, on pense passeport, billet d'avion, c'est vrai la plupart du temps tout de même.
C'est vrai la plupart du temps, mais il y a aussi un processus qui est un petit peu plus compliqué que ça. Ça fait un peu rêver le passeport, le billet d'avion, mais il y a aussi obtenir un visa, par exemple. Ça peut être compliqué. Trouver un fixeur, ce qu'on appelle les fixeurs, qui vont être nos yeux et nos oreilles dans les pays où on va. Trouver un endroit pour dormir quand on arrive dans des zones compliquées, qu'elles soient sinistrées par la guerre ou par des catastrophes naturelles.
Un tremblement de terre, un typhon.
Voilà, c'est parfois difficile. Donc tout n'est pas qu'enchantement dans le grand reportage.
Vous êtes d'accord, Philippe Rondé?
Oui, absolument. Puis grand reportage, je sais pas trop ce que ça veut dire dans le fond, parce que si on prend le groupe Radio France, il y a plus de 600 journalistes, notamment dans les France Bleu.
730, hein, pour être précis.
730, voilà. Tout le monde fait du reportage et du grand reportage à sa façon. Et moi, ce que je répète toujours, c'est que souvent, quand on part à l'étranger sur une grosse actualité, c'est plus facile, en fait. Parce que quand on arrive sur un lieu où il y a eu un typhon, je suis allé aux Philippines l'année dernière, on arrive, on pose le pied à l'endroit où il y a eu le typhon, on n'a qu'à raconter ce qu'on voit et tout le monde trouve ça génial. On me dit, c'était vachement bien ce que tu as fait,
mais
j'ai juste raconté ce que je voyais à mes pieds. Alors que des fois, quand c'est des sujets plus compliqués, là, je sais pas, moi, la hausse du prix de l'essence pour le journal de 13h de France Inter, il faut aller trouver des gens qui disent des choses sensées. Et là, c'est plus compliqué, en fait. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, bien sûr, le grand reportage, c'est très noble et ça fait rêver tout le monde et nous, on adore faire ça. Mais en même temps, c'est peut-être la façon la plus facile de faire du reportage. Le plus dur, c'est d'arriver sur zone. Mais une fois qu'on est sur zone, il suffit de raconter ce qu'on voit et c'est souvent extraordinaire. La situation est extraordinaire, en fait.
Alors, c'est très bien ce que dit Philippe Rondé. Florence Lezac, votre sujet très remarqué cette semaine sur les coulisses des services secrets. C'est combien de temps de boulot pour ces 8 minutes?
Un an, en tout cas un an de préparation, des demandes répétées. Et après, une mise en forme qui est un petit peu compliquée pour des raisons de sécurité, de secret. Et un tournage qui est étalé sur pas mal de temps. Donc il faut être un peu acharné.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Aller en reportage, on n'a pas le temps d'être malade. Philippe Rondé, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
On n'a pas le temps d'être malade. Non, on n'a pas le temps de se poser de questions. On n'a pas le temps de dormir, souvent. Et malheureusement, parfois, on n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui s'accélère, avec des téléphones portables, avec un Radio France, France Culture, France Info, France Inter, le Move. Et parfois, on arrive sur des zones, après 24 heures de trajet, on met le pied à l'extérieur de l'aéroport, et on a déjà 4 messages sur le répondeur. Vite, est-ce que tu peux me faire un 2 minutes pour France Info? T'oublie pas le 12h30 de France Culture. Donc parfois, c'est très dur. Je pense que ça s'est accéléré. Je peux pas comparer avec ce qui se faisait avant, mais... Non, mais je parle de Frédéric
France Info,
et de...
France Info, c'est Jean-Luc Hesse, notamment.
Il n'y avait pas de téléphone portable. Déjà dans les années, jusqu'à la fin des années 80, en gros, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, c'était à la fois un stress en moins et un stress en plus, parce qu'il fallait sans arrêt être connecté d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas toujours marrant. Moi, je me souviens d'avoir tourné la manivelle d'un téléphone sur une île des Caraïbes parce qu'il y avait l'invasion à la Grenade et que j'essayais en vain de trouver un endroit et j'ai entendu des toujours bloup bloup, j'avais deviné que j'étais probablement autour de Radio France à l'époque, mais bon, ça a pas vraiment abouti, donc là ça rendait la vie compliquée, mais au moins on avait plus le temps. J'aime bien ce que vous dites sur le fait que les événements extraordinaires, ça nécessite un peu moins de talent que les événements assez ordinaires, parce qu'il suffit de raconter ce qui se passe. Enfin, il suffit, c'est toujours un peu plus compliqué, mais il y a une espèce de... On est survolté, et puis c'est vrai que l'actualité a du talent, c'est un cliché, mais l'actualité a vraiment beaucoup de talent. Mais on avait le temps un peu plus qu'aujourd'hui. Moi, je suis très admiratif des reporters. Là, je vous vois sur iTélé, j'écoute France Inter, évidemment, et je me dis, mais on les enfourne dans l'avion, c'est vrai, il y a les messages qui attendent, et il faut faire quatre chaînes, il faut sans arrêt, alors soit on tombe dans la répétition et on s'ennuie, et puis il y a les risques d'erreur qui se multiplient, parce que voilà, il y a la fatigue, il y a le stress, tout ça. Et je suis très admiratif de ce talent. C'est-à-dire, je pense que peut-être que je l'aurais eu, hein, Frédéric, on sait jamais, je veux dire, nécessité fait loi.
On en est tous convaincus ici, Jean-Luc.
Mais d'un autre côté aussi, je vous plains, mais je vous dis très sincèrement, parce que je vois des gens, des jeunes gens, qui passent d'un endroit à l'autre en deux jours. Et je me dis, bon, il y a d'excellents reporters. Alors ça, sur les chaînes de télé notamment, je vois des gens... je suis ébahi par ça, par cette faculté de s'adapter. Donc c'est une définition d'intelligence, je crois d'ailleurs. Donc ces gens-là sont intelligents. Mais comment peut-on passer d'un monde à l'autre en 24 heures et dire des choses peut-être plus senties, plus artistiques, j'allais dire, sur ce qui vous entoure, sur le paysage, c'est de l'esthétisme aussi, le journalisme, parce que si on se contente de dire ce qui se passe, bah ça c'est bien, déjà c'est le minimum, mais voilà, il y a tellement de sources partout maintenant qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'autant de journalistes. Il faut donc une patte en plus, il faut un coup d'œil en plus, un ressenti en plus, enfin, une empathie souvent, puisqu'on parle de catastrophe, on voit la différence. Enfin, donc ça doit être un peu plus compliqué aujourd'hui, je crois.
Alors, exemple de catastrophe.
Nous sommes maintenant en ligne avec nos envoyés spéciaux à Washington, Jean-Luc Hess et Bertrand Vanier. Jean-Luc Hess, vous étiez devant votre téléviseur à Washington et comme des millions d'Américains, vous avez assisté à cette catastrophe la plus grave de l'histoire de la conquête spatiale.
Effectivement, Patrice, j'ai vu tout à l'heure en direct le cauchemar de tous ceux qui ont assisté à un lancement de navette depuis le pas de tir 39 à Cap Canaveral. La navette Challenger s'est élevée normalement, le spectacle était très très beau comme d'habitude, le ciel était bleu comme il l'est en général l'hiver dans cette partie de la Floride, et puis au bout d'environ une minute de vol, alors que la navette semblait avoir pris une trajectoire correcte, le vaisseau spatial a explosé en plein ciel dans un immense panache de fumée et de flammes. Il faut se rendre compte que l'explosion a eu lieu alors que les boosters à poudre de la navette fonctionnaient à plein. Les débris ont été suivis par la caméra, comme dans un film au ralenti.
Le journal de 19h de Patrice Bertin sur France Inter en janvier 1986. Et tout ça, Jean-Luc Hess, avec la grippe. Vous ne réalisez pas ce qui se passe.
Oui, enfin, ça, c'est pas très grave. Ça me fait un drôle d'effet de réentendre ça. Non, le pire, c'est que j'avais assisté à 9 lancements de navettes en direct, en bas, à apprendre tout le book de la NASA, à 300 pages, pour comprendre ce qui se passe en cas d'accident, précisément. Puis ce jour-là, je me suis dit, j'ai la grippe, j'y vais pas. Après tout, c'était la 11e ou 12e navette, je sais plus.
Ouais, vous n'êtes pas à Cap Canaveral.
Et je suis pas. Et je suis dans ma télé en train de parler avec un correspondant de Radio France à Londres qui se plaint de la faiblesse des frais de mission à Radio France déjà. Ouais. Et donc, il m'emmerde un peu avec sa conversation, franchement. Mais je regardais la chose sans voir. Et c'est, je crois, la seule fois dans ma vie de journaliste que j'ai regardé quelque chose sans y croire. C'est-à-dire, c'est vrai que ça ressemblait à un Pollock. Cette espèce de chose qui se détruit, qui sur l'écran de la télé, j'ai mis, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes, avant de dire à notre ami de Londres, écoute, avec tes histoires de pré-mission, tu me fatigues, de raccrocher, de me dire, j'ai raté le truc. Et en plus, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'ai mis 20 secondes ou 30 secondes à réaliser que c'était une catastrophe très, très, très importante, puis tragique. Puis il y avait cette petite prof, je crois qu'elle était du New Hampshire, qui était dans ce vaisseau spatial. On s'était fait tout un cinéma sur, ça serait formidable, un prof qui va dans l'espace, qui va raconter tout ça à ses gosses en rentrant dans le New Hampshire. Donc, je me dis, les gosses, ils verront pas, enfin, ils entendront pas leur prof leur raconter la Terre vue de là-haut. Enfin, c'était difficile. Ça m'avait fait un drôle d'effet.
Florence Lezac et Philippe Rondé, est-ce qu'on peut faire des cauchemars parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment? C'est quelque chose qui vous travaille?
très souvent. Bah, c'est le problème de faire un métier comme ça, qui est un métier passion quelque part, parce que je pense qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, et du coup, évidemment que ça crée des frustrations, parce qu'on a tout le temps envie de partir, et je pense que c'est le problème des chefs d'arriver à gérer
Frédéric, hein
les desiderata des reporters qui ont toujours envie de partir au Népal. Quand on voit les autres partir, on se dit, on aimerait bien que ce soit soi, et etc. Donc forcément, oui, à un moment donné, il y a de la frustration, et en même temps, on est bien conscient que l'actualité ne s'arrête jamais, elle s'arrêtera jamais, et si on n'est pas sur ce coup-là, on sera sur celui d'après, ou sur celui d'après, ou sur celui d'après, et puis le principe de la rédaction est vraiment basé là-dessus. Il n'y a pas de jalousie entre nous, mais en même temps, on ne va pas dire autre chose qu'on a vraiment envie de partir tout le temps.
Florence Lozac.
Même chose, oui, chez nous, et c'est vrai qu'il y a aussi un problème de timing. Au début, quand quelque chose se passe, c'est normal que nos responsables, nos chefs regardent un peu la situation, vous voient, évaluent si ça vaut le coup d'envoyer quelqu'un ou pas. Est-ce qu'on attend un peu, on laisse passer une nuit? Baltimore, chez nous, il y a 24 heures, on nous dit peut-être que vous allez y aller, mais là on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des émeutes cette nuit, on verra demain. Et nous on est là, on boue, parce qu'on a envie d'y aller.
D'impatience, on a envie d'y aller.
Exactement. Ouais. Mais il faut quand même attendre, parce que c'est vrai que parfois, le temps d'arriver sur place, eh bien, l'actualité est un peu passée, même si le thème reste intéressant.
Oui, c'est un pari, en fait. Et c'est le pari des dirigeants de dire, bon, ben voilà, cette fois-là, on envoie. Des fois, on n'y va pour rien, ou on arrive après. Et des fois, on n'y va pas alors qu'il aurait fallu y aller. Mais en même temps, c'est difficile de savoir. Baltimore, par exemple, le Népal, au tout début, il y avait 70 morts. Est-ce que ça va être quelque
chose? Il y a même des gens, pardon, je vous interromps, mais il y a des gens qui ont du pif. Moi, je me souviens de certains directeurs de rédaction à France Inter, c'était Jérôme Bellet, qui n'était pas toujours quelqu'un de très facile pour parler vrai. Et je me souviendrai toujours de lui un vendredi soir où on avait tous envie de se barrer de la rédaction. Et puis, genre 19h, il y a une petite dépêche AFP de mes trois lignes. Léger tremblement de terre en Algérie, quelques victimes, peu de dégâts et tout. Et il dit, faut envoyer quelqu'un. Et à l'époque, on partait pas comme ça. Puis il fallait déjà trouver le caissier à Radio France pour signer le chèque ou trouver un peu d'argent liquide. Je me souviens, il y avait de l'argent dans un coffre. D'ailleurs, il y avait de l'argent liquide dans un coffre. Personne n'avait la combinaison. Enfin, c'était un vrai cirque. En fait, il y a eu plusieurs milliers de morts sur ce... Et il a envoyé quelqu'un aussitôt que possible. Et je me suis dit, mais il a un pif, celui-là. Il avait senti que... Voilà, ça fait les bons patrons, quand même.
Leonard Cohen, being a pop star... être une vedette pop du rock, enfin, that should be nice, non, ça doit être sympa aussi. Ça.
It's terrific.
C'est super. No, but I'm serious. Je suis sérieux.
Yeah, no,
it's a very modest kind of stardom.
Moi, c'est un vedettariat vraiment très modeste, peu d'électeurs pour moi. Et on sait qu'on ne peut pas se rattacher à ça. Il y a tout de même des aspects très agréables. Par exemple, je reçois pas beaucoup de courriers, mais un petit peu tout de même. Et de la part de gens qui me disent ce que signifient mes chansons pour eux. Et ça, c'est vraiment émouvant. C'est difficile à décrire. On veut se sentir utile. Et quand quelqu'un vous écrit que, ben, on a écouté une de mes chansons à l'enterrement d'un de leurs amis, ou quelqu'un me dit que, ben, sa mère était en train de mourir et puis, de cancer, et puis elle a écouté jusqu'à la fin une de mes chansons, ou des choses comme ça, quand on m'écrit ça. Eh ben, ça vous donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui était utile, et ça, c'est très agréable.
Voilà, Leonard Cohen dans Synergie en octobre 97, le sentiment donc, d'avoir fait quelque chose d'utile.
Ça me fait un drôle d'effet tout ça. C'est la séquence émotion.
Un peu. Vous faites tout à Synergie, dans Synergie.
Bah oui,
les questions, les traductions.
On avait un petit budget, tout ça, donc je faisais déjà tout en même temps. C'est très intéressant pour le cerveau d'ailleurs, de faire l'interview en français, en anglais, traduire aussi. C'est-à-dire que vous avez le cerveau divisé en trois et ça rend agile pour un certain temps. Après, bon, faut le payer, on vieillit plus mal. Mais je trouve que c'est une bonne thérapie.
Leonard Cohen, c'est quelqu'un de particulier. Ouais. Vous l'avez rencontré dans un monastère bouddhiste en Californie.
Ah oui, ça avait été quelque chose. On s'était pointé là-bas. C'est une invitation de son éditeur de musique, quoi. Et donc, je me retrouve à Los Angeles avec la dame qui représente la maison de disques. Et puis, on y va dans une énorme limousine. Bon, c'était l'hiver, on était bien dans la limousine. On arrive dans un monastère pourri. Là, franchement, à 150 km de Los Angeles, et il fait très froid en montagne. Enfin, il y a de la neige et tout. Et on tombe chez moi, les Bouddhas, connaît pas tout ça. Enfin, ils sont tous gentils, ils sont pas méchants. Et alors, je me dis, mais c'est pas possible que Leonard Cohen vive dans un truc pareil. Et il faisait froid. on se pelait, et il avait un petit t-shirt bras nu, enfin un vieux blue jean. Il y avait des accros dans le t-shirt, et il venait de faire les poubelles. Parce que dans ce monastère, chacun travaillait, puis méditait, donc il se levait à 4 heures du mat. La position du lotus, j'ai essayé, c'est pas évident.
Ça fait mal au genou.
Franchement, ça fait mal partout. Bon, lui, il commençait à 4 heures du mat, après les poubelles. La semaine d'avant, il m'a expliqué qu'il avait fait les latrines. Enfin bon, je regarde un souvenir assez ébloui. Et puis, il a passé mais des mois et des mois là-dedans, et j'ai adoré l'homme, quoi. D'abord, la voix qu'il a, c'est mon côté midinette, je me dis... Et puis en plus, c'est un homme très profond, et à l'époque, il était très dépressif, et c'est un amoureux des femmes. Alors cette espèce de mélange juif de Montréal, amoureux, et les femmes lui ont bien rendu, hein, c'est pas trahir un secret, et avec cette profondeur et ce charme, et du coup on a développé un petit bout de relation comme ça. On s'est bien compris tous les deux sur un certain nombre de sujets. Et puis, j'ai fait son interprète deux ou trois fois, comme ça, quand il venait en France. Et donc, j'ai retrouvé Leonard Cohen.
Le Secret des Sources, sur France Culture, les coulisses des grands reportages avec nos invités, Florence Lozac, d'ITélé Canal+, Philippe Randé de France Inter, et Jean-Luc Hesse, vos remarques, vos commentaires sur notre site franceculture.fr. Alors, on va évoquer un souvenir, toujours un peu douloureux pour nous à Radio France, puisqu'on va parler d'un journaliste que nous aimions beaucoup, et avec qui on a tous eu, et vous, notamment Jean-Luc, vous avez eu de très bons souvenirs. Alors nous sommes à Genève, conférence internationale sur les relations Est-Ouest, novembre 85, Reagan, Gorbatchev, direct dans le journal de 13h de France Inter, et on frôle la catastrophe, on écoute, vous nous racontez.
10h04, ce matin à Genève, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev pénètrent dans la grande salle du Centre international de presse où s'entassent journalistes, photographes et caméramens. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev s'installent à la tribune. Enfin, on va savoir ce qu'ils se sont dit pendant les deux jours qu'ils viennent de passer en tête à tête. Mikhail Gorbatchev prend le premier la parole. Ronald Reagan parle ensuite. Les bonnes intentions affichées à Genève, dit-il, permettent d'espérer que l'on ira plus loin. Écoutez. Nous avons un petit problème avec Genève. Est-ce que nous pouvons entendre un court extrait de la déclaration de Ronald Reagan ?
Je quitte aujourd'hui Genève et ce sommet du coin du feu, déterminé à saisir toutes les opportunités de construire un monde plus sûr, un monde de paix et de liberté. La tâche qui nous attend est difficile. Secrétaire général Gorbatchev, nous vous demandons de vous joindre à nous pour accomplir cette tâche et je suis sûr que vous le ferez. Merci.
Jean-Luc, c'est quoi ce bruit avant Ronald Reagan ?
C'est-à-dire que le journaliste dont on parle et qu'on adorait vraiment, il a eu un petit malaise qui était lié à quelques excès, qui ne dataient pas d'hier d'ailleurs. Et il s'est écroulé dans une minuscule cabine de la radio suisse. Le technicien suisse s'est barré en courant. Il nous repérait d'ailleurs depuis un bon moment. Je crois qu'on lui faisait peur. Et donc je me suis retrouvé avec le micro-casque, enfin le micro dans l'œil. Donc c'est pas moi du tout qui devait commencer, un vrai bordel. Il y avait une de nos consoeurs aussi qui devait traduire le russe, une interview de Raïssa Gorbatchev qu'elle avait réussi à obtenir. Ça non plus, le magnéto est parti en vrille, il n'y a plus de technicien, il n'y a plus... Et donc je pleurais, mais je pleurais beaucoup, mais ça fait mal un micro dans l'œil. Et donc j'étais par terre avec mon camarade, et je n'arrivais pas à relire mes notes, quoi, parce que je ne voyais rien, pour dire la vérité. Mais c'est très émouvant pour moi, parce que j'avais une affection absolue pour ce garçon, qui, on l'a peut-être compris, il était pour l'excès, quoi. Dans la vie, il faut vivre excessivement. Et donc, ce jour-là, oui, on est passé à côté de la cata. Puis ça s'est continué après, parce que c'était le jour du Beaujolais nouveau. Donc, comme il m'avait bien fatigué la tête avec cette histoire, je l'ai emmené au restaurant et j'ai dit, tu vas te finir là, parce que...
Vous avez découvert que le Beaujolais nouveau arrivait en Suisse.
Oui, à Genève, il y avait du Beaujolais nouveau. Et j'ai pris la précaution quand même de le ramener dans le train et de le confier à des gens sérieux, des confrères français qui l'ont ramené à Paris. Mais quand on dit ça, on dit qu'un petit milliardième de la dimension de cet homme qui était quelqu'un d'absolument fabuleux et drôle et généreux. Enfin, il y a des gens bien dans ce métier.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you like? All I need is my brother.
Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Jean-Luc, c'est une chanson qui vous bouleverse.
Ah oui, oui, ça, je me la repasse en boucle d'ailleurs. C'est devenu un toc, cette chanson. Joe Cocker est quelqu'un, c'est un timide, c'est un vrai timide. Et moi, je suis timide aussi. Et j'ai remarqué que les timides adorent les timides, c'est-à-dire que vous les rassurez. Et c'était un homme d'une extrême courtoisie, d'une extraordinaire timidité. Un jour, on essaie de monter un concert à la maison de la radio, au 104. Et puis, il vendait pas beaucoup de disques à ce moment-là en France. Donc, gratuitement, concert, tout, on s'occupe de la logistique. Et puis, il vient avec ses musiciens et la maison de disques paye un peu la note derrière. Enfin, on se débrouille. Et puis, je vais le voir à l'hôtel juste avant le concert. Le concert, c'était à 21h, un dimanche soir, je m'en souviendrai toujours. Et je vais le voir à l'hôtel et il avait un manager qui était, je crois, un ancien des Sex Pistols. Un mec qui rigolait pas. Et 4 heures d'après-midi, je dis bonjour monsieur Cocker, voilà, ravi de vous rencontrer, qu'est-ce que je vous offre? Il me dit vous prenez quoi? Je dis je prends un whisky. Puis les 4 heures d'après-midi, un dimanche, on a quand même bien le droit. Et Cocker, il dit ouais, moi aussi. L'autre dit non, je dérange pour tout le monde. Bon, je dérange pour tout le monde, puis j'ai compris pourquoi après. Et j'explique à Joe Cocker que ben voilà, ça va se passer dans de super conditions techniques, c'est les techniciens de Radio France, c'est la machine Radio France, ça va rouler. Et je lui dis, c'est en direct. Il me dit, bon, on me l'avait pas dit, ça. Alors je me dis, ça y est, il va me planter là, il va pas vouloir. Puis il y a la vraie panique, hein, la panique, ça se voit sur quelqu'un. Et je dis, oui, mais vous savez, Radio France, c'est comme la BBC. Ah, bon, alors si c'est comme la BBC, total respect, bon, je vais dormir, je vais faire la sieste. Je me dis, bon, ouf. Puis il se pointe, et en plus, il nous accorde une interview comme ça, d'une heure avant le concert, enfin, ce qu'aucun artiste ne fait en général, parce qu'ils ont quand même un peu la pression. Il nous fait son With a Little Help from My Friends à la fin, parce qu'il ne peut la chanter qu'à la fin du concert, parce que ça bousille les cordes vocales, il faut après arrêter ça. Et puis, il n'avait rien demandé, alors que les musiciens, les artistes peuvent être un petit peu difficiles et exigeants. Il avait demandé une bouteille de Bacardi dans sa loge pour la fin du concert. Donc, ça coûtait chic et pas cher. On s'est dit, on va lui offrir une bouteille de Bacardi, c'est du rhum blanc. Et je vais le voir dans sa loge et il ouvre la bouteille, il boit au goulot, il me la passe, je bois au goulot. 12 minutes. On a bu la bouteille en 12 minutes, j'ai pas pu aller à l'after show, lui non plus.
C'est pas votre truc le rhum.
Non, je supporte pas le rhum. Et donc voilà, bon, c'est la vie, hein, faut payer professionnellement.
Florence Lezac, Philippe Rendez, vous reconnaissez un peu dans tout ce qu'on vient de dire avec Jean-Luc Hesse dans votre métier de grand reporter?
Non, mais on rencontre peu de... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Alors, moi, j'ai travaillé au MOOV avant, donc j'ai fait beaucoup de festivals. Donc, j'ai pas mal côtoyé le monde du rock moderne et les tourbus, etc., pour faire ce qu'on appelait des live reports au MOOV à l'époque, où on faisait vraiment du reportage musical avec les groupes. C'était très intéressant.
Avec ou sans Bacardi?
Avec beaucoup de Bacardi.
Ça se fume pas le Bacardi, c'est ça qu'il veut dire.
Beaucoup d'autres choses, c'était des jeunes rockers. Et c'est vrai que ça donne envie. C'est un métier qui donne forcément envie.
Non, moi, je n'ai pas fréquenté les stars du rock pour l'instant. Peut-être que ça viendra.
On écoute des extraits de vos reportages, Florence Lozac et Philippe Randé.
C'est une guerre silencieuse, sans sirène, sans panique apparente, et qui mobilise sur le terrain des combattants venus du monde entier.
L'épidémie est imprévisible et que la réponse reste trop faible. Mais un centre de traitement n'est jamais la solution.
Le risque, c'est un peu d'abandonner la partie, parce qu'on voit tellement de foyers partout qu'on peut se dire qu'on est impuissant.
L'ennemi s'appelle Ebola, et en Guinée, il tue plus que dans les autres pays touchés par le virus. Ici, 6 personnes contaminées sur 10 en meurent, contre 3 au Sierra Leone et 4 au Liberia.
Le Bardo était reconnu dans le monde entier pour la richesse de ses collections, en particulier ses mosaïques datant de l'époque romaine. Mais hier à Tunis, ce palais médical est devenu le théâtre de la terreur.
Debout sur l'avenue Bourguiba, une bougie à la main, Zina a toujours du mal à y croire. Comment ces terroristes ont-ils osé entrer dans le plus beau musée de Tunisie? Comment ont-ils osé tirer au hasard sur des touristes qui descendaient de leur autocar avant de les poursuivre à l'intérieur? Pour elle, en tout cas, le message des terroristes est sans équivoque.
C'est pour essayer de déstabiliser les Tunisiens, notre jeune démocratie qui vient de naître. Ils n'ont pas accepté que nous avons réussi. Ils veulent la mort, nous, on veut la vie.
Le secret des sources.
Voilà, Florence Lozac, on vient d'entendre un extrait de l'un de vos reportages en Guinée sur Ebola, diffusé en novembre dernier sur iTélé. Philippe Randé, on a écouté un extrait d'un de vos reportages en Tunisie, après l'attentat du musée Bardo, diffusé sur France Culture. Le 19 mars dernier, vous avez diffusé un reportage pendant la grève. C'est une performance, Philippe. Florence Lozac, qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans la manière de travailler aujourd'hui par rapport à
l'époque d'avant. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la présence du portable, le portable qui sonne en permanence, le besoin de reporter tout de suite dès qu'on est dans le pays. Nous, on a vraiment une demande de reportage et de vécu. Et on ne nous demande pas de raconter une dépêche, ce qui pourrait être fait à Paris. On nous demande de prendre des petits bouts d'humains, des petites histoires qui vont raconter la grande. Et c'est vraiment la demande qu'on a de plus en plus. Vous regardez autour de vous, vous décrivez ce que vous voyez. Encore, nous, on a l'appui de l'image. Mais vraiment, raconter des petites histoires qui vont nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays.
Et en plus, Ebola, à l'époque, c'est très particulier comme reportage. C'est une guerre, mais on ne voit pas l'ennemi. C'est un peu tout ce que les grands reporters ont dit en revenant.
Oui, et nous, on était très fiers d'y aller parce que beaucoup de rédactions ont choisi de ne pas envoyer d'équipe sur place. Et finalement, quand on est sur place, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui sont faisables sans prendre énormément de risques. Et c'était très touchant de voir la mobilisation de tous ces gens qui sont restés des mois et des mois à chercher. On rencontrait à l'hôtel le soir des médecins qui venaient de Genève, qui cherchaient le virus, qui cherchaient une solution pour stopper ce virus et qui ne se couchaient pas tant qu'ils n'avaient pas avancé un tout petit peu dans leur journée.
À votre retour, Florence Lozac, on vous a mis en quarantaine, on vous a demandé d'éviter la rédaction.
Pas du tout. Non, on a eu une petite période de repos. Mais classique, et non, il n'y a pas eu du tout de quarantaine comme certains ont eu.
On a eu dans d'autres rédactions. Philippe Randé, vous travaillez pour 3 antennes, vous nous l'avez expliqué. Est-ce qu'on a le temps de se poser quand on est journaliste à Radio France, reporter radio à Radio France, ou est-ce qu'on n'est pas happé par la machine?
Le moment où on se pose, c'est le moment où on monte dans l'avion à l'aller, où on a une documentation, parce qu'on a un super service documentation à Radio France, on travaille dans des super conditions, on a beaucoup de documents, et là on peut travailler en amont. Après, à partir du moment où on arrive sur le terrain, sur des grosses actus, type Ukraine, Centrafrique, Mali, là ça devient compliqué. Le plus important, c'est quand on arrive, en fait, la matinale du lendemain, en gros. Même si on arrive à le Bardo qu'on vient d'entendre, on est arrivé à 22h, il fallait faire 2 éléments pour le lendemain, on a été dans un hôpital, essayer de trouver des survivants, on savait pas où ils étaient. Ces moments-là sont très stressants et très compliqués. Ce qui compte, c'est la première matinale du lendemain. Et après, petit à petit, la machine commence à se ralentir un petit peu. Mais c'est vrai que c'est vraiment difficile. Et par rapport à la question que vous posiez, Frédéric, sur la différence entre avant et maintenant, si on devait caricaturer, je pense que ce qui est fascinant pour nous, c'est que dans un monde où on peut aller partout, aujourd'hui, on peut décider ce soir de prendre un billet pour partir en Thaïlande, on peut aller manger à Marseille, il y a des TGV tous les quarts d'heure. Nous, en tant que grands reporters, on va sur des zones inaccessibles Et c'est encore le dernier shoot d'adrénaline et d'aventure pour nous. Et c'est ça qui est fascinant dans notre métier, c'est que quand on va en Ukraine, à Donetsk, que tous les avions sont arrêtés, que tous les trains sont arrêtés, il faut trouver des moyens pour y aller. Quand on va aux Philippines, à Tacloban, on met 48 heures pour y aller, alors que normalement, il y a un avion qui y va en 12 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est très addictif, ce côté dose d'aventure. On est un peu les derniers aventuriers, parce qu'on va dans des endroits qui sont inaccessibles. Et des endroits inaccessibles, aujourd'hui, dans le monde, pour un citoyen lambda, il n'y en a quasiment pas. C'est juste sur ces zones-là.
Il ne faut pas être malade quand on est grand reporter. Il faut toujours se débrouiller pour arriver à l'endroit où on doit faire le reportage.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je ne vais pas appeler ma rédaction en disant « j'ai pas pu aller à Tacloban, je suis arrêté. »
J'ai pas eu mon visa, je suis désolé.
Ça n'a pas tellement changé, ça. Je veux dire, c'est déjà comme ça. Il y a ouais, temps,
mais un reporter a toujours une bonne trousse médicale avec lui.
Le secret des sources.
Jean-Marie Charon, sociologue et spécialiste des médias, je vous ai écouté avec attention notre discussion. Alors, le grand reportage a des origines anglo-saxonnes avec un particularisme français.
Oui, alors là, on remonte encore plus loin dans le temps. Mais c'est vrai que le grand reportage apparaît au 19e siècle. Et comme souvent en matière de journalisme, le rapport au terrain, c'est plutôt la presse anglo-saxonne qui nous l'a amené. Alors qu'à l'époque, on était effectivement en France, dans un journalisme qui était beaucoup plus politique ou beaucoup plus littéraire. Ceci dit, le particularisme du grand reportage à la française, il est littéraire et il est économique. Alors littéraire, bah parce que parmi les pionniers, il y a Zola, il y a l'école naturaliste qui, effectivement, ont leur conception du reportage qui va influencer beaucoup la manière dont les journalistes français vont travailler dans ce domaine. Et puis économique, parce que le grand reportage a fait partie, disons, de la recette à succès de la presse populaire française. C'était en gros trois ingrédients, le fait divers, le feuilleton et le grand reportage. Et d'ailleurs, le grand reportage, on le feuilletonnait à l'époque, parce que la vente au numéro, qui était la caractéristique de la presse populaire française, hein, contrairement aux anglo-saxons qui avaient eu un système beaucoup plus basé sur le portage et l'abonnement, il fallait ramener le lecteur tous les jours au kiosque. Et comme on fait, en feuilletonnant de grandes aventures de journalistes sur des terrains très inconnus, eh bien, on ramenait le lecteur tous les jours vers le kiosque. Et on avait de grandes stars. On a toujours de grandes stars, mais il y avait à l'époque donc les Albert Londres, les Henri Béraud, les André Violis, Joseph Kessel, etc. Beaucoup de ces noms sont soit des gens qui ont réussi en littérature ou qui ont échoué. On oublie souvent qu'Albert Londres aurait bien aimé être un grand littérateur et puis qu'il n'a été qu'un grand reporter. Alors c'était quoi les caractéristiques du grand reportage par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure? C'était le terrain, bien évidemment, comme aujourd'hui, mais c'était aussi le temps long. C'est-à-dire on partait très longtemps et bien sûr on n'avait pas de moyen d'être en relation avec sa rédaction et c'était après que l'on traitait son reportage. C'était aussi le témoignage. Puis c'était évidemment le style. Alors ce grand reportage en même temps qui a fait le succès donc de la presse populaire, qui a petit à petit été repris par l'audiovisuel, en même temps il faut bien constater que dans les années 70-80, il va avoir tendance, disons, à donner le sentiment qu'il s'était épuisé et que le public de masse qui avait adoré cette forme journalistique avait tendance à s'en détourner, peut-être au profit d'une information plus courte, plus factuelle, parce que c'est vrai que les grands reportages dont on a gardé un souvenir très ému, n'était pas toujours très carré sur le plan factuel. Il y avait quand même beaucoup d'imagination, parfois, qui venait s'en rajouter. Puis le rapport au terrain et le rapport aux acteurs sur le terrain n'était pas toujours très clair non plus. On se souvient qu'Albert Londres avait parfois des liens particuliers sur le terrain. Donc, on a ce phénomène d'épuisement factuel et puis la rapidité. Et ce qui fait que souvent, et notamment avec l'audiovisuel, on peut dire que le grand reporter, au sens où on l'entendait à l'époque, a été plutôt remplacé par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'envoyé spécial. Alors, en même temps, je dirais, les années 2000 ont été encore plus, je dirais, dramatiques pour le grand reportage, dans la mesure où il y a eu ces deux problèmes, trop cher et trop dangereux. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut dire que le grand reportage a été pris un peu en tenaille, surtout dans la presse écrite, entre le modèle économique qui s'effondrait, on n'avait plus de moyens d'envoyer les gens, pas aussi longtemps, ou de moins en moins, et puis il y a eu ce phénomène qu'on ne connaissait pas bien, de combattants qui, sur le terrain, prenaient les journalistes comme cible. Des journalistes tués, des journalistes pris en otage. Ça veut dire des problèmes économiques, l'explosion des coûts d'assurance, par exemple. Et puis, ça veut dire aussi des rédactions traumatisées. Et puis, on l'a peut-être oublié, mais il y a eu aussi le fait que l'Internet est venu aussi en rajouter une couche. Avec l'irruption des réseaux sociaux, Skype, etc., vous l'avez évoqué tout à l'heure, parfois on fait le reportage à distance. Et effectivement, on a eu l'impression, avec la révolution verte en Iran, avec le printemps arabe, bah finalement que via les réseaux sociaux, c'est l'information qui est venue en rédaction. Et le risque, ou disons la tentation, la hantise pour certains, c'est de se dire que le journalisme de demain, c'est peut-être un journalisme plutôt assis.
Là, vous êtes en train de nous dire que c'est la fin du grand reportage, Jean-Marie.
Eh bien non, parce qu'en fait, quand on regarde bien ce qui se passe, simultanément à ce que je viens de décrire, il y a des choses qui, en matière de grand reportage, sont assez significatives. Il y a par exemple le succès d'une revue comme 21, il y a le lancement de sites d'information, j'avais déjà parlé ici d'un site comme le 4 heures qui est sorti l'année dernière et qui est spécialisé dans le reportage. Et puis, il y a l'audiovisuel dont on a beaucoup parlé ici, avec des émissions qui sont plus spécialisées dans ce domaine. Et si on parle de Radio France, on peut parler d'Interception, parler de Sur les Docks, etc. Et puis, ce qui est assez caractéristique de la période, c'est que si vous regardez une plateforme de crowdfunding, autrement dit d'appel aux dons pour financer des contenus, eh bien, on voit qu'il y a énormément de reportages qui sont proposés, par exemple, sur Ulule ou sur KissKissBangBang, qui sont de ces plateformes et qui, parfois, recueillent des sommes assez significatives. Autrement dit, on peut dire que le reportage, il est vivant, mais qu'il est probablement différent. Différent dans la mesure où, quand on regarde de près l'économie d'un certain nombre d'entreprises, on s'aperçoit qu'il est souvent précaire. 21, c'est des journalistes qui partent dans des conditions, ce sont des pigistes. Hein. Si on prend dans l'audiovisuel, les structures comme CAPA, Point du Jour, etc., emploient des journalistes qui sont aussi freelance. Donc ça, c'est une dimension prise de risque davantage en termes de carrière, en termes d'évolution de profession. Et autrement dit, on peut dire que aujourd'hui, il me semble qu'il y a peut-être un public moins nombreux, mais qui est certainement plus motivé et plus passionné par cette forme de contenu.
Merci Jean-Marie Charron. Le grand reportage, Jean-Luc Hess, vous avez risqué votre vie. Il y a des paragraphes dans le livre à Salvador, en Haïti. Vous avez été sauvé par des Marines de l'ambassade américaine en Haïti. Mm-hmm. C'est un pays qui vous hante, vous dites, et vous avez aussi un souvenir un peu douloureux en Haïti.
Oui, alors quand on dit hanté, c'est dans le bon sens, c'est dans le mauvais sens aussi, oui, parce que j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait beaucoup d'effet quand j'avais 30 ans, mais que j'ai pas oublié. Enfin, ça m'a changé radicalement. Et puis, j'ai aussi d'excellents souvenirs d'Haïti. Enfin, j'y retourne. D'ailleurs, on a ouvert une école là-bas.
À Savannette.
Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas. On a une belle petite école avec 250 enfants. Et c'est justement en allant inaugurer cette école, c'est à la frontière dominicaine, donc c'est un endroit vraiment très désert, il faut 5-6 heures de piste pour y aller, donc il y avait tous nos enfants qui étaient tout propres, tout beaux, qui étaient là, qui nous attendaient, puis il y avait un petit orphelinat sur la route, on s'est occupé de l'orphelinat aussi, enfin de leur construire au moins un toit, et donc j'étais avec Bertrand Vanier, tiens, et puis d'autres gens de la maison, parce qu'on avait un fort attachement vers Haïti, on avait une dame ici, Pauline, je ne sais pas si elle écoute France Culture, mais une dame du courrier, comme on dit, qui avait perdu pas mal de monde là-bas, et on a voulu l'aider, enfin bref. Donc on était sous le coup de cette émotion, on revient à Port-au-Prince, puis il y avait un ambassadeur, qui était un type formidable là-bas, dont j'ai oublié le nom, c'est pas bien, et je crois qu'il s'occupe maintenant de la cellule de crise du Quai d'Orsay, mais un type vraiment bien, il lui dit, venez à l'ambassade, on va arroser ça, on va boire un verre et tout, et puis il me demande de faire un petit discours, donc sous le coup de l'émotion, je sortais de l'orphelinat où j'avais fait les poches de tout le monde pour nourrir ses enfants, quoi. Enfin, il fallait que ça tienne plusieurs mois. Et je dis, vous savez, ça m'a fait beaucoup, beaucoup d'effet, je suis très émotif avec les enfants, et ils s'accrochaient à nous, on pouvait plus partir, comme des chiots qu'on vend, vous savez, sur les quais. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? J'aurais dit des chatons, ça passait, mais c'est vrai que le mot était affreux. Moi, j'aime beaucoup les chiots, donc j'ai pas pensé. Vous voyez, la langue m'a fourché, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Et puis, il y avait une consoeur qui travaillait pour Radio France, d'ailleurs, qui a tweeté au SNJ en disant, vous rendez compte, ils comparent les enfants, les orphelins d'Haïti à des chiots. J'ai su ça sur la route du retour et j'ai pleuré. Et si je continue d'en parler, je vais encore pleurer. Ça m'a détruit. Je me suis dit, mais comment peut-on... Ça aussi, c'est les réseaux sociaux, c'est super. Qu'est-ce que ça veut dire d'agresser l'honneur d'un homme ou la réputation d'un homme pour un mot... Voilà, j'ai dit chiot au lieu de chaton. Ça arrive à tout le monde, même aux professionnels, méfiez-vous. Et c'est une affaire qui continue de temps en temps. Enfin, chaque fois que j'y pense, d'ailleurs, j'ai un vrai problème, soit de colère, soit d'émotion, soit de pas de culpabilité. Hein, mais et je retourne en Haïti, m'occuper de mes enfants avec Bertrand Vanier d'ailleurs. Et on est bien content de tout ça.
Et Radio France a aidé à faire une belle école à la Savanette.
C'est pas Radio France d'ailleurs, c'est les bonnes volontés de la maison. Et ça a été quelque chose d'inouï. Vous avez au milieu de rien. Vous avez une école, une belle école qu'on a construite avec architecte d'urgence, on a trouvé des parrains, etc. Il n'y a pas un sou de Radio France, hein, vous inquiétez pas. Et on a dévoilé une plaque, c'est écrit quand même Radio France, puisque c'était grâce à Radio France. Et c'est une de mes grandes, grandes, grandes fiertés de PDG.
À l'ouest de l'ouest vivait un type dont je vais vous conter l'histoire, le Duc.
J'étais facteur d'ailleurs pendant 3 ou 4 mois. Il y a des tas de facteurs qui ont bien réussi, pas que dans la politique. Je pense à Bukowski, par exemple, qui a été un facteur épouvantable pendant des années et des années.
Duc, jamais personne de par chez nous se ferait appeler comme ça. Mais de temps en temps, il y a un homme qui... Et c'est du Duc que je parle, là. Un homme qui est exactement à sa place, qui colle parfaitement dans le tableau. Comme le Duc.
Il y avait un type qui était formidable, qui s'appelait Hunter Thompson, lui et son âme. Et je me souviendrai toujours de la façon dont il avait suivi la campagne de McGovern. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait The Boys on the Bus. Un boulot absolument génial, puisqu'il ne respectait aucune règle. Déjà, il ne mettait pas de chaussettes dans le bus pour suivre le candidat à la présidence. Et puis, il fumait ses pétards dans le fond du car, puis il faisait ce qu'il voulait, enfin, il était dingue. Donc, moi, je ne suis pas dingue. Je ne fume pas de pétards, je mets des chaussettes.
Change rien, Duc.
Mais à ça.
Continue de te la couler douce.
T'inquiète. Le Duc tient bon.
Il y a un président américain que j'adorais, Harry Truman, et il disait « Quand on n'aime pas la chaleur, on ne va pas dans la cuisine ». Et j'ai toujours pensé que c'était une des choses les plus profondes que j'ai entendues.
Vous, je sais pas, mais moi, ça me réconforte. C'est bon de savoir qu'il est là. Le Duc.
Quand on n'aime pas la chaleur, on ne va pas dans la cuisine.
Quand je vous disais que le clin d'œil de Yacine Bouzard est en rendez-vous incontournable en fin d'émission, le clin d'œil inspiré par les frères Cohen, merci à tous. L'émission se termine, merci à nos invités Jean-Luc Hess pour son livre Voyage aux éditions du Cherche Midi. Jean-Luc Hess, ancien PDG de Radio France, correspondant à Washington, ancien directeur de France Inter également. On n'a pas parlé des journalistes de France Inter, ils liront le livre.
Il y aurait à dire.
On était très contents, Jean-Luc, de vous revoir.
Merci.
Et de vous recevoir à la Maison de la Radio. Merci à Florence Lozac, grand reporter à iTélé et Canal+. Et vous avez signé un document cette semaine sur iTélé avec Olivier Prédhomme dans les coulisses de la DGSE. On apprend, hein, c'est ça, 6 attentats déjoués depuis janvier.
C'est ça.
Florence Lozac, prix Bayeux également en 2010 avec Gilles Jacquier dans la promo de France 2, mort en Syrie. Philippe Rondé, grand reporter à France Inter. Et à mon avis, vous allez l'avoir, vous, le prix Bayeux. Faites attention, ça vous guette. Un autre regard extérieur de l'émission pour nous éclairer aujourd'hui. Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias dans les coulisses de l'émission. Les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation, le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Jean-Michel Coqui. Merci à Denis Forger qui a fouillé et tout trouvé dans les archives de l'INA. Merci à lui. Je vous signale un concert demain dimanche organisé par nos amis de Reporters sans frontières. Demain, RSF qui fête ses 30 ans vous invite à un concert pour la liberté, place de la République à Paris, de 17h à 23h avec Jeanne Chiral et Arthur H. Notamment le concert pour la liberté de RSF, c'est demain à la République. Dans un instant, le journal de Julien Lagache, suivi de répliques. La médecine face à la fin de vie, Alain Finkielkraut reçoit Emmanuel Bernheim et Robert Moulias. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
Parfois on arrive sur des zones, après 24 heures de trajet, on met le pied à l'extérieur de l'aéroport et on a déjà 4 messages sur le répondeur. Vite, est-ce que tu peux me faire en 2 minutes pour France Info? T'oublie pas le 12h30 de France Culture. Donc parfois c'est très dur, je pense que ça s'est accéléré.
Vous faites tout à Synergie, dans oui. Synergie.
Bah oui,
les questions, les traductions.
On avait un petit budget, tout ça, donc je faisais tout en même temps. C'est très intéressant pour le cerveau d'ailleurs, de faire une interview en français, en anglais, traduire aussi. C'est-à-dire que vous avez le cerveau divisé en trois et ça rend agile pour un certain temps. Après, bon, faut le payer, on vieillit plus mal. Mais je trouve que c'est une bonne thérapie.